Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 8. Dès que l'agent de police Marest eut obtenu de sœur Geneviève l'autorisation d'aller donner acte de la sortie des prisonnières désignées pour la déportation, toutes les personnes présentes, religieuses, surveillantes, détenues, avaient entouré la pauvre Henriette qu'on avait fait asseoir sur un banc. L'infortunée avait perdu connaissance, mais grâce aux soins qu'on lui prodiguait, elle ouvrit bientôt les yeux et jeta des regards effarés sur les personnes qui s'empressaient autour d'elle. Au premier rang se trouvaient le docteur et Marianne. Celle-ci, profondément émue, ne parvenait à exprimer sa douleur que par des exclamations et des soupirs. Le docteur tenait une des mains d'Henriette, consultant le pouls. « Ce ne sera rien, » fit-il, « rien de grave, une simple syncope qui déjà est dissipée. » La jeune fille, en effet, agitait ses lèvres comme si elle eût été près de parler. Marianne s'avança et s'agenouillant devant elle. « Comment vous sentez-vous à présent, mademoiselle ? » s'informa-t-elle à voix basse. Henriette serra fiévreusement la main de la détenue et, retrouvant le souvenir douloureux de ce qui venait d'avoir lieu peu d'instants auparavant, « Ah, je comprends maintenant que l'on veuille mourir !» dit-elle. À cette allusion à la scène qui s'était passée sur le pont Neuf entre elle et les deux jeunes filles, Marianne releva la tête et ses regards brillèrent d'une lueur vive. « Ne parlez pas ainsi, » fit-elle. « Souvenez-vous des paroles que vous m'adressiez à moi-même. » À son tour, le docteur intervint, et d'un ton paternel, il dit à l'éprouvée. « Si vous avez une famille, pensez à elle. » Henriette avait peu à peu retrouvé assez de force pour se redresser. Assise sur le banc, elle remercia doucement les détenus qui se retiraient discrètement, emmenés par les surveillantes. Elle adressa également des regards pleins de reconnaissance aux religieuses qui lui avaient prodigué des soins. Puis, se tournant vers Marianne, qui n'avait pas voulu la quitter, et vers le docteur, qui, assis à côté d'elle, tenait toujours une de ses mains dans les siennes, elle leur dit d'une voix pleine de résignation. « Oh, ce n'est pas pour moi que l'exil m'effraie. Ce n'est pas ma propre infortune qui me désespère. » Marianne crut devoir expliquer au docteur. « Elle a une sœur dont elle était le seul appui. »« Ah, pauvre enfant !» murmura le médecin. « Oui, une sœur aveugle. » Henriette tressaillit et sa main trembla dans celle du docteur. En ce moment, elle se souvenait avec horreur des scènes qui avaient eu lieu entre elle et le lieutenant de police lorsque ce magistrat avait ordonné qu'on la traînât à la salpêtrière. Elle se souvenait qu'à l'instant de l'arrivée du comte de Lignières, elle avait été sur le point d'entraîner avec elle la comtesse, à la rencontre de Louise, de la pauvre aveugle qu'elle avait en vain cherchée pendant 3 mois et que le hasard lui ramenait à l'improviste. Et se levant, elle s'écria en s'adressant au médecin. « Je l'avais retrouvée, monsieur. J'avais retrouvé cette sœur bien-aimée, lorsqu'ils m'ont arrêtée. » « Oui, j'avais entendu sa voix, je l'avais reconnue. Je la voyais, monsieur, je la voyais. » Henriette passa vivement la main sur ses yeux comme pour effacer le terrible souvenir. Elle continua, haletante. Elle mendiait en chantant, couverte de haillons. Ses beaux cheveux blonds flottaient en désordre sur ses épaules. Elle marchait brisée par la fatigue et traînée par une horrible femme qui la martyrise sans doute, qui la torture. Et ils m'ont empêché de courir vers elle. Et je ne sais plus où elle est, je l'ai perdue de nouveau. Et pour toujours cette fois, pour toujours. » Les sanglots qui l'étouffaient éclatèrent, noyant les derniers mots qu'elle avait prononcés. Marianne s'était éloignée, appelée par une religieuse. Ce fut le docteur qui essaya de consoler la jeune fille. Le brave et digne homme cherchait en outre à rappeler ses souvenirs. « Attendez donc, mon enfant, » fit-il, « attendez donc. « Celle que vous pleurez, je crois l'avoir rencontrée. »« Vous, monsieur ?»« Oui, oui, » reprit le médecin, comme s'il se fût souvenu tout d'un coup. « De beaux cheveux blonds et de grands yeux bleus, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, c'est cela même !» fit Henriette en relevant la tête. Le docteur reprit. « Cette vieille femme qui l'accompagnait l'appelait... Attendez... » Il fouilla de nouveau dans sa mémoire et s'écria avec vivacité. « Je me souviens, elle l'appelait Louise. »« Ah, c'est elle, s'écria Henriette en appuyant fiévreusement ses mains sur le bras du docteur. « C'est ma sœur que vous avez rencontrée. Ah, vous aussi, vous l'avez vue !» La détenue était maintenant au comble de l'anxiété, suspendue aux lèvres de l'excellent homme qui avait cherché à la consoler. « Je connais même cette femme qui la conduisait, » ajouta le médecin. « Vous connaissez cette femme ?»« Elle est venue 20 fois à mon hôpital. » Et d'un ton où perçait la répulsion que lui inspirait la vieille mendiante. « C'est la Frochard, » dit-il. Marianne revenait en ce moment. Le nom de la Frochard frappa son oreille. Elle leva vivement la tête, comme si elle eût éprouvé un choc violent. Qui donc parlait de la Frochard? Et pourquoi était-il question de cette horrible femme? « Vous parlez de la Frochard ? » fit-elle. « Je la connais aussi, moi !» Puis avec force s'adressant à Henriette. « C'est sa mère à lui, Jacques !» La détenue repentie porta vivement la main à son front brûlant. « Oui, reprit-elle, vous le connaissez bien, lui, Jacques, l'homme dont vous m'avez sauvé, puisque c'est à vos pieuses paroles, à vos exhortations que je dois d'avoir ouvert les yeux à l'horrible vérité. Oui, c'est vous qui m'avez fait comprendre que mon devoir commandait le repentir et que je devais vivre pour expier. Et ce jour-là, votre sœur, que vous pleurez aujourd'hui, était auprès de vous. Elle aussi avait de bonnes et douces paroles pour moi. Malheureuse que je suis, poursuivit-elle, en vous retrouvant, je me suis laissée aller à ne vous parler que de moi-même. Dans mon trouble et dans ma stupéfaction de vous revoir ici, en ce lieu où l'on enferme les misérables comme moi, je ne songeais pas à vous demander ce qui s'était passé depuis notre séparation. Je négligeais de vous parler de cet autre ange qui m'avait exhorté au repentir, qui m'avait supplié de consentir à vivre, pour expier. Mais ce nom de la Frochard me rappelle une chose horrible. « Quoi donc ? » firent en même temps Henriette et le docteur. Marianne allait probablement raconter la scène qui s'était passée entre elle et les soldats qui l'emmenaient en prison, lorsqu'elle avait de loin reconnu Louise au bras de la Frochard, et qu'ayant soupçonné la vérité, elle avait voulu s'élancer au secours de l'aveugle qu'on entraînait ainsi. Mais elle craignit de faire éprouver à Henriette une nouvelle et violente émotion. Elle se contenta de répondre. « Eh bien, nous savons où elle est, votre sœur. « Chez la Frochard, parbleu !» affirma le médecin. « Au nom du ciel !» supplia Henriette. « Dites-moi où demeure cette femme !»« Elle habite une masure dans la rue de l'Oursine, sur les bords de la Bièvre, » dit Marianne. Le docteur avait approuvé d'un signe affirmatif de la tête. Haletante, Henriette avait écouté. « C'est là qu'elle demeure ? Vous en êtes bien sûre ? Alors je vais retrouver ma Louise ! Je pourrai bientôt... » Elle s'interrompit en jetant un cri de désespoir. Elle se souvenait tout à coup de la terrible volonté du lieutenant de police. « Ah, je vais partir !» s'écria-t-elle en se tordant les bras. « Je vais partir !» Et lorsqu'elle parlait ainsi, son visage était inondé de larmes. Ses lèvres étaient contractées sous l'effet des sanglots. Marianne, d'une voix ferme, s'écria alors. « Eh bien non, mademoiselle, non, il ne faut pas que vous partiez !» Le docteur la regardait étonné. « Que dit-elle ? » Quant à Henriette, vaincue par la douleur, elle avait baissé les yeux en murmurant avec désespoir. « Il ne faut pas que je parte. Hélas, n'y suis-je pas condamnée ?» La parole expira sur ses lèvres. Le roulement d'une voiture avait interrompu la phrase. Marianne et le docteur tournèrent les regards du côté de la grille d'entrée. Un véhicule venait de s'y arrêter. C'était une massive charrette attelée de vigoureux percherons. Henriette avait tout vu. « Regardez cette voiture, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est elle qui va m'emmener. » Les sanglots lui coupaient la voix. Folle de douleur, elle joignit les mains, et les yeux levés au ciel, elle s'écria. « Oh, ma pauvre Louise, ma pauvre Louise !»« Vous parliez de l'empêcher de partir ?» dit tout bas le docteur à Marianne. « Mais c'est impossible, impossible !»« Silence !» fit celle-ci. Le médecin regardait Marianne avec étonnement. « C'est impossible, c'est tout à fait impossible » répétait-il à mi-voix. Mais Marianne s'était rapprochée de lui et tout bas elle lui souffla ces mots. « Docteur, ayez pitié d'elle. »« Parbleu, j'ai le cœur bourrelé, mais que puis-je faire ?»« Consentez à m'aider. »« Moi ? Oui, docteur. »« Mais par quel moyen ?» Pendant que ce court dialogue s'échangeait à quelques pas d'Henriette, qui, vaincue par la douleur, s'était affaissée sur le banc, une scène des plus douloureuses avait lieu dans l'intérieur de la prison. Marest, on s'en souvient, était allé opérer la levée d'écrou des détenus qu'il devait emmener avec lui dans une autre prison où les condamnés à l'exil attendaient le jour de leur départ pour le port d'embarquement. Lorsque l'agent de police parut à l'entrée des ateliers, il y eut parmi toutes les prisonnières un moment de silence lugubre. Chacune d'elles éprouva une émotion violente en voyant Marest consulter la liste qu'il tenait à la main. Qui sait si leur nom n'allait pas être prononcé? L'angoisse faisait palpiter tous ces cœurs de réprouvés. Marest, cependant, garda le silence, se contentant de consulter le livre d'écrou et d'apposer sa signature, en marge, en regard du nom porté sur sa liste. Chaque fois que la plume grinçait sur le papier, les regards se dirigeaient vers le policier, comme pour l'interroger. Mais le visage de Marest demeurait impassible. C'est pendant que cette formalité s'accomplissait que sœur Geneviève, ne pouvant supporter le spectacle de la douleur d'Henriette, était venue rejoindre l'agent. La supérieure était d'une pâleur extrême. Et comme toutes les mains se tendaient vers elle, comme tous les regards imploraient son intervention, la pieuse femme eut un geste pour recommander le calme à ces malheureuses que la loi frappait implacablement. Puis, allant successivement vers chacune de celles dont le nom figurait, elle le savait, sur la liste d'exil, sœur Geneviève imposait ses mains sur le front de la condamnée et la bénissait. Alors, la détenue savait ce que cela signifiait et se préparait à suivre l'agent. Parmi toutes ces misérables créatures, les unes acceptaient la chose avec calme. Condamnées à perpétuité, peu leur importait d'avoir pour horizon la mer, d'une part, de l'autre les montagnes et les forêts, plutôt que les murs noircis de la salpêtrière, la flèche de l'église ou la grille que fermait la cour. D'autres, moins endurcies dans le vice ou le crime, pleuraient silencieusement. Quelques-unes, enfin, violemment émotionnées, se lamentaient, sanglotant et embrassant les mains de la digne supérieure qui leur prodiguait de touchantes consolations. Mais le cœur de la religieuse était abreuvé d'amertume à l'idée qu'il lui faudrait voir partir cette jeune fille, de l'innocence de laquelle elle ne doutait pas un instant. Sœur Geneviève avait achevé cette tournée de charité au banc des affligés et s'en revint l'âme torturée auprès de l'employé qui achevait d'apposer les signatures sur le registre. Marest s'inclina devant la supérieure. Cet homme endurci dans le service de la police et qui n'avait pas l'habitude de se montrer tendre dans l'accomplissement de ses fonctions, éprouvait ce jour-là quelque hésitation dans la tâche qui lui était incombée. Le moment approchait cependant où il devrait faire partir le troupeau, malgré les lamentations et les cris. « Madame, dit-il à la supérieure, toutes les détenues que j'ai l'ordre d'emmener sont-elles présentes ici ?» Sœur Geneviève ne répondit pas tout de suite. Elle sembla regarder sur les bancs, comme pour compter une à une les prisonnières qu'on lui avait désignées. Mais en réalité, la sainte créature subissait le plus douloureux supplice qui pût tourmenter son âme si pleine de charité et de compassion. Il lui fallut cependant répondre. « Non, monsieur, fit-elle dans un long soupir, elles ne sont pas toutes là. Je vais prévenir celles... » Elle s'interrompit, les larmes lui venaient aux yeux. Marest lui-même ne pouvait se défendre d'une certaine émotion. Toutefois, l'heure avançait, et il manifesta l'intention d'en finir au plus tôt avec cette besogne qu'il sentait être d'un spectacle si pénible pour tout le personnel de la salpêtrière, à commencer par sœur Geneviève. « Madame la supérieure voudrait-elle m'autoriser, demanda-t-il, à faire mettre en rang toutes les détenues qui doivent me suivre ?» La religieuse inclina la tête en signe d'assentiment. Mais elle ne put soutenir plus longtemps la vue de ces malheureuses qui se lamentaient. Enfin, lorsque sœur Geneviève eut dépassé le seuil, se dirigeant vers la cour, Marest fit un signe et les plus endurcies parmi les futurs exilés enjambèrent les bancs et vinrent bruyamment se placer deux par deux devant l'agent de police. Celui-ci avait repris sa façon d'être habituelle et il commandait avec autorité à toute cette cohue de condamnés, vagabondes, voleuses ou filles de débauche. Lorsque la bande fut en rang, Marest se plaça à leur tête et les conduisit ainsi dans la cour, les dirigeant vers la porte de sortie. À quelque distance de la grille, il commanda la halte. Alors, les détenus se placèrent sur une seule ligne. L'agent allait procéder à l'appel, dernière formalité avant le départ des prisonnières. Il s'agissait de faire reconnaître chacune d'elles par la supérieure et de s'assurer par cette formalité que c'était bien la détenue désignée sur la liste qui l'emmenait. Tous les assistants attendaient, avec des impressions diverses, ce qui allait se passer. Sœur Geneviève, très troublée et le visage portant la trace des souffrances de l'âme, priait tout bas. Ses regards se fixaient à la dérobée sur Henriette qui, demeurée sur le banc avec Marianne et le docteur, était toute tremblante et semblait près de s'évanouir de nouveau. Que se passait-il en ce moment dans le cœur de Marianne? Quel combat intérieur se livrait en elle pour qu'elle parût consulter anxieusement des yeux le médecin? Cette malheureuse, qui venait d'obtenir sa grâce, s'apitoyait-elle simplement sur le sort de la détenue, pour laquelle il n'y avait rien à espérer? Non, une pensée sublime était venue à cette voleuse repentie, à l'ancienne victime d'une passion coupable, à celle qui s'était donnée à Jacques Frochard. Marianne avait dit à la jeune fille qui se désespérait « Non, mademoiselle, non, il ne faut pas que vous partiez. » Et elle réfléchissait aux moyens d'empêcher qu'Henriette fût emmenée. Elle avait maintenant à peine une minute pour se décider et mettre à exécution son projet. Une minute pendant laquelle son regard alla chercher sur le visage désespéré d'Henriette le courage d'accomplir ce que lui dictait son cœur. Une minute pendant laquelle elle s'approcha du docteur dont elle pressa doucement la main comme pour lui demander de l'aide au moment suprême. Une minute pendant laquelle la repentie se rappela que c'était à cette pauvre créature si éprouvée elle-même aujourd'hui qu'elle devait sa réhabilitation devant Dieu et devant les hommes. L'agent Marest s'était approché des détenus en rang et avait prononcé ces mots au milieu d'un profond silence. « Il reste encore une prisonnière à emmener, Henriette Gérard. » Marianne s'avança et se plaçant devant l'homme de police, « C'est moi, » dit-elle. Henriette avait entendu. Elle étouffa un cri et voulut venir protester contre l'acte de dévouement sublime dont elle allait bénéficier. Le docteur la retint par le bras en lui murmurant à l'oreille. « Taisez-vous, ne vous perdez pas. » Au surplus, Marianne, qui avait aperçu le mouvement fait par Henriette pour intervenir, demandait à Marest de l'autoriser à faire ses adieux aux détenus et aux surveillantes groupées au fond de la cour. « Permettez-moi, monsieur, » supplia-t-elle en indiquant Henriette, « de dire un dernier adieu. » Elle fut interrompue par la jeune fille, qui, en dépit de ce que lui avait dit le médecin, refusait d'accepter le sacrifice de Marianne. « Non, » dit-elle tout bas, « ce que vous voulez faire est impossible. Je ne veux pas consentir. » Mais Marianne lui répondit d'une voix calme. « Ce n'est pas vous que je sauve, » murmura-t-elle, « c'est moi-même. » « Vous ? Si je reste en France, à ma sortie de cette maison, je reverrai Jacques, et cette fois, je serai perdue sans retour. Vous, au contraire, ajouta-t-elle, vous reverrez votre sœur et vous serez sauvées toutes les deux. Louise. Le nom de l'aveugle prononcé en ce moment produisit l'effet qu'avait espéré Marianne. Celle-ci profita de l'émotion de la jeune fille pour lui glisser dans la main la lettre de grâce que le docteur lui avait précédemment remise. Prenez ceci, fit-elle. Et comme Henriette hésitait encore, le docteur insista à son tour. « Prenez, c'est votre ordre de sortie. »« C'est le salut de Louise qui vous attend, » prononça Marianne en embrassant avec effusion celle pour le salut de qui elle faisait le sacrifice de sa liberté. Toute cette scène n'avait duré que quelques instants. Il se fit aussitôt un certain mouvement dans l'assistance. C'était sœur Geneviève qui se dirigeait vers les détenus qui allaient partir. Le docteur comprit qu'elle allait venir à Henriette pour exhorter la malheureuse au courage et à la résignation. « Sœur Geneviève, » fit-il en regardant Marianne comme pour lui dire que le sacrifice qu'elle avait voulu s'imposer ne s'accomplirait pas. En effet, Marest était allé à la supérieure pour lui dire « Madame, veuillez vérifier cette liste avec moi, afin de déclarer et de signer ensuite que ce sont bien là toutes les détenues désignées pour l'exil. » « Tout est perdu. » dit le docteur à Marianne, qui, les yeux baissés, serrait convulsivement la main d'Henriette. Et la jeune fille, suffoquée par l'émotion, trouva pour répondre cette phrase qui témoignait de sa résignation. « Le ciel ne l'a pas voulu. » La supérieure prit place à côté de l'agent, et l'appel commença. « Françoise Morand ?» Sœur Geneviève, regardant la détenue qu'on nommait. « Oui, c'est elle. » « Jeanne Raymond ?» Oui. Marest appela successivement les noms des autres détenus, puis se tournant vers Marianne. « Henriette Gérard ?» Sans hésitation, Marianne s'avança, et levant des yeux suppliants sur la supérieure. « Me voici, ma mère, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous ?» Sœur Geneviève allait protester. Le docteur s'élance et lui montre à Henriette, implore du regard. La religieuse, troublée, émue, dirige alternativement ses yeux effarés sur Marianne qui, les mains jointes, attend le verdict qui sera prononcé et sur Henriette, demeurée immobile et comme pétrifiée, n'osant prononcer une parole, tenant les yeux levés au ciel. Marest attend toujours la réponse. Alors, Marianne tente un dernier effort. « ma mère, ayez pitié » s'écrie-t-elle en se prosternant devant la supérieure. « Bénissez-moi, ma mère, car ce départ purifie une coupable. » Et plus bas, « et il sauve une innocente. » L'agent intervint. « Eh bien, ma sœur ?» C'était l'arrêt d'Henriette qu'il s'agissait de prononcer. La sainte femme, qui n'avait jamais forfait à la vérité pendant sa longue carrière, celle qui considérait le mensonge comme un crime, sœur Geneviève étendit ses mains sur le front de Marianne. Et d'une voix ferme, les yeux au ciel, elle répondit à l'agent. « Oui, c'est bien Henriette Gérard. » Un double cri s'échappa de la poitrine des deux détenues, dont l'une prenait la place de l'autre pour l'exil et l'infamie. Mais déjà, sœur Geneviève avait relevé Marianne et lui ouvrait ses bras. Elle pleurait, et son âme s'élevait vers Dieu pour lui demander pardon du pieux mensonge qu'elle venait de faire. Marianne dut s'arracher à son étreinte pour suivre l'agent. La malheureuse alla prendre sa place dans le rang des déportés. La grille s'ouvrit et toutes ces exilées disparurent deux à deux. Alors, sœur Geneviève regarda le médecin qui soutenait Henriette, et les yeux pleins de larmes. « Ah, docteur, » dit-elle, « mon premier mensonge. Il vous sera compté là-haut, ma sœur, comme une œuvre de charité. » Lorsque Marianne eut disparu et que la grille se fut refermée sur ces infortunés qui ne devaient jamais revoir leur patrie, il se fit un mouvement parmi les gens qui avaient assisté à cette lamentable scène. Religieuses, surveillantes et détenues s'inclinèrent respectueusement en passant devant la supérieure. Alors, le docteur prit Henriette par la main et la présentant à sœur Geneviève. « Vous avez sauvé une innocente, » dit-il, « à mon tour de sauver une pauvre victime. Et j'espère que le ciel m'aidera, comme il vous a donné la force d'accomplir l'œuvre de réparation qui vous élèverait encore à mes yeux, si je n'avais pour vous toute l'admiration possible. » Henriette était agenouillée. « Ma mère, » fit-elle, « je prierai toute ma vie pour vous qui avez voulu que ma sœur me fût rendue, pour vous qui avez eu pitié des deux orphelines. » En sortant du cabaret de travail du lieutenant de police, où il venait de rendre compte à M. de Lignières de la façon dont ses ordres avaient été exécutés, Marest se trouva nez à nez avec Picard. À sa vue, le vieux domestique se composa un visage à l'expression indifférente et lui demanda « Quelle bonne nouvelle m'annoncerez-vous, Monsieur Marest ? Mon maître est-il un peu moins irrité ?»« Il a tout lieu d'être satisfait, je suppose, car le voilà débarrassé. »« De quoi ? De quelqu'un qui le gênait apparemment, puisque... » Et s'interrompant, « Au fait, vous ne savez rien. Vous n'y étiez pas. » « Où ça ? À l'affaire du faubourg Saint-Honoré. »« je sais, » ricana Picard en haussant les épaules. « On a arrêté une fille. »« Fille tant que vous voudrez, mais de ma vie je n'avais encore assisté à pareille scène. » »« Des pleurs, des cris parbleu, c'est toujours la même rengaine, on connaît ça. » »« Pas du tout, pas du tout, vieux sceptique que vous êtes. C'était de vraies larmes et des cris de véritable désespoir. » Je vous avouerai que moi et mes hommes, nous étions remués. Mais il fallait obéir. Et ma foi... Vous avez entraîné la demoiselle. Une jolie fille. Pour cela, je ne saurais vous le dire, car je n'ai jamais pu apercevoir même le plus petit bout de son visage qu'elle cachait dans ses mains. Ah ! Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai conduite à la salpêtrière. Une fois l'arrestation opérée, l'officier et les exemples s'en sont chargés. Par exemple, ça n'a pas été la même chose aujourd'hui. Comment ça? Parce que c'est votre serviteur qui vient de la parquer dans la charrette des femmes qu'on expédie à la Louisiane. Vous? C'est vous qui avez... Picard avait failli oublier son rôle d'indifférent. Il reprit aussitôt en se faisant violence pour dominer son trouble. On va donc embarquer la cargaison? Pardier, de la bonne vermine de moins pour Paris et la France. Le valet réfréna une furieuse envie de sauter à la gorge de cet agent qui parlait en pareils termes d'Henriette. « Oui, continua Marest, je suis allé lever l'écrou d'une douzaine de gaillardes qui feront très bien dans le paysage de la Louisiane. »« 12, dites-vous ? » Et parmi ces donzelles se trouvait la pleurnicheuse du faubourg Saint-Honoré. Henriette Gérard, vous alliez la nommer. Et, balbutia le domestique, vous veniez de... Je viens en effet d'annoncer à Monseigneur que la prisonnière a quitté la salpêtrière et que dans 2 ou 3 jours, elle voguera vers la pleine mer. Ah, elle voguera, vous croyez ? Fit Picard d'un air singulier.
C'est ni vous ni moi, mon camarade, qui pourrions empêcher cela. On a vu des choses plus extraordinaires, fit-il en s'efforçant de rire.
En tout cas, ce que je puis vous affirmer, c'est que la demoiselle sera bien traitée là-bas.
Comment savez-vous ça ?
Parbleu, parce que Monseigneur s'intéresse à elle.
Au point de l'exiler ?
Elle ne lui est pas indifférente, puisqu'il la recommande.
Il la recommande ? À qui ?
Au gouverneur de la Louisiane, mon cher.
Vous voulez rire ?
Voici la preuve. Et Marest montra à son interlocuteur un large pli caché de rouge et scellé aux armes du lieutenant de police.
Cette lettre est adressée, comme vous voyez, mon cher Picard.
Au gouverneur de la Louisiane, lut le domestique.
Et je sais ce qu'il y a dedans.
Ça, c'est autre chose.
J'ai d'excellents yeux, mon Picard, et qui voient de très loin. C'est ainsi que j'ai pu lire.
Quoi ? Vous avez lu cette lettre ?
C'est-à-dire que j'ai jeté un coup d'œil dessus pendant que monsieur écrivait.
Et vous savez ?
Vous êtes trop curieux, monsieur Picard.
Autant que vous, pardieu !
Eh bien, sachez que la demoiselle Henriette est recommandée d'une façon toute spéciale à la bienveillance du gouverneur.
Recommandée à la bienveillance ? Voyez-vous ça ?
Elle sera, c'est le désir de monseigneur le lieutenant de police, traitée là-bas tout autrement que le commun des exilés.
Qui sait même si elle ne s'y mariera pas ?
S'y marier ? Elle ? Pour la seconde fois depuis cet entretien, Picard perdait patience et un peu plus allait dire son fait à l'agent.
Marès se mit à rire.
« Mais oui, fit-il, il paraît que celles qui se conduisent bien obtiennent l'autorisation de se conjoindre à de charmants gredins, à de jolis voleurs ou à des criminels qui ne répugnent pas à la fleur d'oranger de ces virginales déportées. Ça fait souche d'adorables petits scélérats qui plus tard ressembleront à père et mère. »
Picard n'en voulut pas écouter davantage. Il quitta Marès dans l'antichambre avec l'intention de se rendre auprès du comte de Lignières. Mais quel prétexte prendrait-il pour pénétrer dans le cabinet sans y être appelé ? Picard s'était donc planté tout contre la porte lorsque celle-ci s'ouvrit pour livrer passage au lieutenant de police.
« Toi ici ? » fit le magistrat.
« Oui, monseigneur. J'attendais en prévision du cas où monseigneur aurait besoin de mes services. »
Monsieur de Lignières était soucieux.
« Viens, » dit-il après réflexion, en ouvrant au valet la porte du cabinet de travail.
J'ai reçu de fâcheux rapports à propos du chevalier, commença-t-il. Monsieur de Vaudrey, paraît-il, s'abandonne au désespoir, au point, dit-on, de refuser toute nourriture.
Bah, c'est qu'il n'a pas faim, dit Picard avec un cynisme affecté.
Je ne voudrais pas que le chevalier, que mon neveu, poussât les choses à l'extrême. D'ailleurs, le séjour de la Bastille doit lui paraître agréable, peut-être.
Moins dur qu'il n'aurait pu l'être, si je n'avais recommandé au gouverneur de traiter son prisonnier avec égard.
Ah, monseigneur a fait cela ?
Oui, répondit sèchement monsieur de Lignières. J'espérais que touché de ma générosité...
Magnanimité, monseigneur.
Roger reviendrait à de meilleurs sentiments.
Il y reviendra, monsieur le comte.
Puisse-t-il en être ainsi ?
Espérez-le, monseigneur.
J'ai chargé le gentilhomme qui commande la forteresse de conseiller à Roger de faire amende honorable.
Et
le gouverneur l'a mandé auprès de lui.
Il y est allé, sans doute.
Le chevalier a décliné l'invitation.
C'est extraordinaire.
C'est surtout dangereux pour lui. Aussi vais-je essayer une dernière fois.
Le vieux serviteur prit un air embarrassé. Il ouvrit la bouche comme s'il eût voulu donner un avis, puis il se retenait au moment de parler.
Le comte de Lignières s'en aperçut.
« Que penses-tu, fit-il, que tu n'oses te risquer à dire ?
Oh, je ne me permettrai pas de donner un conseil à mon maître.
Je t'y autorise, parle. »
Si monseigneur voulait écrire... Écrire au chevalier, moi ?
D'un oncle à un neveu, ça se peut, insinua le rusé domestique.
Oui, lorsque le neveu n'est pas mis en révolte ouverte contre le chef de la famille.
C'est juste.
Lorsqu'il n'a pas résisté à tous les conseils, aux prières même.
Monseigneur a raison.
C'est indigne.
Épouvantable.
Et je ne voudrais pas...
avoir l'air de...
se reprenant avec un emportement comique.
Non, monsieur le comte, non, vous ne pouvez pas donner cette dernière preuve de votre grandeur d'âme.
Vous devriez laisser le plus longtemps possible le coupable ronger son frein au fond de sa prison.
À moins que vous ne preniez en considération le profond chagrin qu'en éprouve madame la comtesse.
Car elle est malade, sérieusement malade.
Monsieur de Lignières avait eu une crispation des lèvres dont Picard ne voulut pas s'apercevoir. Il continua toujours sur le même ton.
Et dans ce cas, monsieur le comte, il est certain qu'une lettre de vous aurait sur ce malheureux jeune homme une influence mille fois plus salutaire que...
Soit, dit monsieur de Lignières, j'écrirai cette lettre.
Et si monseigneur le permet, je me chargerai de la porter moi-même.
Toi ?
Je pourrais peut-être ajouter certaines choses que ne contiendra pas le billet de monsieur le comte et qui, j'ose le croire, décideront monsieur le chevalier à tout faire pour sortir de prison.
C'est bien, dit le comte. J'accepte ta proposition.
Picard eut un tressaillement de joie. Je vais réfléchir à ce qu'il convient d'écrire.
Je serai aux ordres de monsieur le comte quand il jugera convenable et utile de m'envoyer à la Bastille,
pas comme prisonnier, fit-il en souriant, comme négociateur.
Soit, je te préviendrai lorsqu'il sera temps de partir.
Et d'un geste bienveillant, le lieutenant de police congédia le vieux serviteur, estimant que celui-ci réussirait peut-être à faire entendre raison à son obstiné parent.
Lorsque Picard refermait la porte, le comte de Lignières laissa éclater sa colère.
« Oui, la comtesse est souffrante, se dit-il. Mais pourquoi sa faiblesse pour Roger l'a-t-elle entraînée loin de ses devoirs? À quel sentiment a-t-elle obéi en se rendant auprès de cette jeune fille que j'ai envoyée rejoindre ses pareils à la salpêtrière ?»«
Oui, reprit-il mentalement, la comtesse est malade. Et depuis, elle s'est renfermée dans le silence, un silence qui m'exaspère, qui fait naître en moi mille pensées irritantes, mille poignants soupçons.
Et je n'ai pu lui arracher son secret. Au moment où je croyais qu'il allait lui échapper dans un cri, ce cri qu'elle a poussé lorsque je la pressais de questions, elle a perdu connaissance. Et rien n'a pu lui faire rompre ce silence obstiné.
Monsieur de Lignières était arrivé progressivement au comble de l'exaspération. Debout, les lèvres frémissantes, il regardait la porte qui donnait sur le couloir, conduisant à la chambre à coucher de la comtesse. À ce moment, on frappa discrètement à cette porte.
« Entrez !»
commanda M. de Lignières. C'était la camériste de la comtesse qui venait annoncer que le docteur était auprès de la malade. «